On poursuit cette semaine notre série d'émissions pour comprendre et débattre sur le thème de l'éducation populaire, une série qui est proposée par PFM et Paul Masson. Paul Masson, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes habitant arrageois, membre de Culture et Liberté et d'Attaque Artois. Alors la semaine dernière, Paul, vous nous avez parlé du combat pour une école pour tous en France, donc un combat qui a lieu au 19e siècle. Donc c'est plutôt le courant laïque républicain de l'éducation populaire. Aujourd'hui, vous évoquez un autre courant que vous avez appelé courant humaniste chrétien. Alors, quelles sont les origines de ce courant de l'éducation populaire ?
Alors ce courant naît au même moment. On est à la fin du 19e siècle. À ce moment-là, la classe ouvrière commence de s'organiser, de se structurer. On va avoir une organisation sociale où on voit apparaître clairement, maintenant, la division entre une minorité de personnes qui deviennent particulièrement riches. C'est le moment où les grandes entreprises de textile ou les mines produisent beaucoup de valeur et où on a un enrichissement énorme de la bourgeoisie et en même temps, on voit augmenter considérablement le nombre des travailleurs qui sont de plus en plus dans la misère. Cette nouvelle situation va interroger l'Église. Et on va avoir un texte qui va avoir une répercussion sur un bon siècle, une encyclique du pape Léon XIII, Rerum Novarum, un texte du pape, qui à la fois affirme le droit de la propriété, mais à la fois dit, il y a dans l'organisation sociale un problème du fait de cette minorité de riches et multitude de miséreux, de travailleurs miséreux. Et le texte « Une minorité de riches et une multitude de travailleurs miséreux » est extrait de l'encyclique. Et il dit, il y a quelque chose à faire par rapport des chrétiens. Il y a quelque chose qui, à la fois, il remet pas du tout en cause le modèle social, mais à la fois, il dit, il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas conforme au message du Christ, de voir ce décalage entre une minorité de riches et une multitude de travailleurs miséreux.
Alors, comment l'Église s'organise-t-elle à partir de ce constat ?
Alors, par rapport à ce texte-là, il va se passer, il va y avoir en France la création d'un courant, d'un mouvement qui va s'appeler le Sillon. Celui qui le crée, c'est Marc Sangnier. C'est des jeunes qui sortent des grandes écoles de l'époque et qui se disent, eh ben, notre boulot, notre mission, ça va être de rencontrer le peuple et de les former. Il y a des points communs avec le courant laïque républicain qui dit le peuple a pas une culture et il nous faut lui donner cette culture pour qu'il puisse s'émanciper. Le contexte de la création du Sillon, il est créé en 1891. En 1848, on a eu la révolution de 1848. En 1870, on a eu la Commune de Paris. Une grande peur de la part de la bourgeoisie, le mouvement ouvrier est en train de prendre du pouvoir. Et cette peur-là, l'influence du marxisme se développe, tout le courant anarcho-syndicaliste, avec des trucs forts, ni Dieu ni maître, parmi les slogans, fait aussi que l'Église est amenée à s'intéresser à la situation de la classe ouvrière. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va y avoir un texte, Rerum Novarum, qui est un texte du pape. Donc, on va avoir une élite on peut dire des militants d'éducation populaire avant l'heure, parce que ça ne s'appelait pas comme ça, qui vont se mettre à aller faire du domaine de la formation pour apprendre à lire, apprendre à écrire, essayer d'éveiller à différents aspects. Ce qui va caractériser ce courant, c'est son approche, disons, on n'est plus dans la vision, faut apporter au peuple ce qu'il n'a pas, mais une rencontre entre des individus. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que la personne qu'on va former est notre égal, en tant qu'individu, en tant qu'homme, fils de Dieu. C'est en ce sens-là que c'est un courant humaniste. c'est notre égal et l'échange entre les gens va se faire d'égal à égal. Il va y avoir, pas seulement on vient vous donner quelque chose, mais on vient apprendre de vous. Et ça va avoir un certain nombre, c'est le sillon, c'est peut-être l'apport principal à l'éducation populaire, où on va avoir une autre conception de la culture qui n'est plus nous qui avons, allons former quelqu'un qui n'aurait pas, mais on va s'apprendre mutuellement du fait de nos différences. Ça va être cette caractéristique-là qui va marquer tout un courant de l'éducation populaire, qui continue d'exister maintenant, où finalement notre différence de culture est une richesse pour l'apprentissage de l'un comme de l'autre.
Paul, vous parlez d'une approche théorique, hein, cet échange d'égal à égal, mais comment concrètement ça se passait? Peut-être prendre des exemples de ces formes d'échange.
Alors ces formes d'échange, ça se fait comme des sortes de cours du soir ou des formations le dimanche, des temps où des gens qui, dans la semaine, sont à l'école, vont rencontrer des ouvriers, puis les aident à lire, à écrire, passent du temps avec, essayent de comprendre les difficultés, essayent de les aider à apprendre, à lire, à connaître.
Alors tout ce mouvement, sur quoi il débouche?
Alors on peut dire que à court terme, il va y avoir, c'est-à-dire sur ce qui va se produire, c'est qu'on va avoir une modification, à la fois un apport pour les ouvriers au niveau culturel, ils vont apprendre à lire, mais aussi on va avoir une modification par cet échange de l'approche des intellectuels. Ces gens de bonne volonté qui allaient rencontrer les ouvriers qui ne savaient pas lire pour leur apprendre à lire vont découvrir leurs conditions de vie, vont s'interroger avec eux sur ces conditions de vie, vont découvrir et commencer à rapprocher ensemble les causes des conditions de misère. Et ça va avoir une influence telle que on en arrive à ce que la papauté, hein, le pape qui suit, ça va être Pie X, va interdire le sillon. Parce qu'ils vont se mettre à comprendre ce qui se passe et commencer à remettre en cause de l'ordre social. Et la condamnation du pape, je cite, « Les sionistes, c'est-à-dire les membres de cette association qui s'appelait le Sion, placent l'autorité dans le peuple et prennent comme idéal un nivellement de classe. » Vous voyez bien qu'on retrouve l'Église institutionnelle qui, elle, est toujours du côté du camp des riches. Les classes sociales ne sont pas remises en cause. Et l'autorité ne peut pas venir du peuple. L'autorité vient de Dieu dans l'Église. Et il va y avoir une condamnation du Sion par le pape. Marc Sangnier, qui était profondément croyant, arrête le Sion. C'est-à-dire qu'à court terme, ça conduit à un arrêt parce que les contradictions à l'intérieur de l'Église apparaissent trop fortes. Mais ce courant-là va avoir une influence énorme au niveau de l'éducation populaire, parce que la démarche du sillon, qui consiste à dire on se rencontre, on s'écoute mutuellement pour réussir à trouver une solution en s'appuyant sur nos différences, c'est toute une démarche qui n'est pas arrêtée avec le sillon. Et au cours de l'histoire de l'éducation populaire, ça va être une des démarches pédagogiques qui va coexister et qui continue d'exister encore dans les mouvements d'éducation populaire. La condamnation du sillon par le pape, c'est 1910, donc un petit peu avant la guerre de 14. L'influence des mouvements d'éducation populaire dans l'Église renaîtra entre deux guerres, mais j'aurai l'occasion d'y revenir.
Alors Paul, on se retrouve la semaine prochaine, on va peut-être parler du programme de la prochaine émission pour comprendre et débattre mardi prochain.
La semaine prochaine, eh ben, on regardera un petit peu ce qu'est devenu les mouvements d'éducation populaire à la fin du siècle dans le courant ouvrier.